Et bonjour, vous êtes sur le réseau FM+. Ce réseau réunit deux radios, Alliance Plus à Nîmes sur le 103.1 et FM+ à Montpellier sur le 91 de la bande FM. Tous les vendredis à 10h10, retrouvez Scénorama, émission dédiée à l'actualité culturelle, avec rediffusion le samedi à 12h10 et écoutable en podcast sur fmplus.org. Aujourd'hui, j'accueille Jacques Allaire pour sa mise en scène « Ni une, ni deux » sur un texte d'Eugène Durif, une comédie burlesque à voir dans le cadre de la programmation de la scène nationale de Sète et du bassin de Thau, à compter du 16 mars et jusqu'au 28 dans différents lieux et villages. Nous développerons tout ça. Olivier Mabi, chargé de la communication de cette scène à la super programmation, est avec nous. Il accompagne Monsieur Allaire. Bonjour les garçons.
Bonjour Annie.
Et en seconde partie, eh bien, avis aux mélomanes, Guillaume Trébuchon vous expliquera tout pour participer au fameux 34 tours, une opération du Conseil Général qui a pour objectif d'aider à la professionnalisation des groupes héroletés de musique actuelle. Bonjour Guillaume.
Bonjour Annick.
Jacques Allaire.
Oui.
Présent, on dit. Présent, madame.
Je suis là.
Vous allez nous donner à voir à compter du 16 mars, donc ni une ni deux, une pochade hilarante, ai-je lu, sur un texte de Eugène Durif. Alors, si je ne me trompe, c'est pas vraiment dans vos habitudes de faire dans l'humour.
Ben, c'est justement pour ça. On m'a dit, tiens, si pour une fois tu nous faisais un truc rigolo. Et, c'est parti de là. C'est vraiment parti de là. Et mais en même temps, c'est pas tout à fait vrai. Parce que j'utilise quand même pas mal dans le jeu, dans le travail du jeu et du plateau, en fait, pas mal de techniques de jeu qui relèvent, je pense, de la comédie, pour ce qui est des questions des rythmes, des contretemps, ou du clown, pour ce qui est de l'expression, d'utilisation de l'espace. En fait, moi, j'ai pas le sentiment d'être très éloigné de ça, mais jamais.
Mais là, bon, ça va être carrément très
drôle. J'avais vraiment le désir à y être de faire une comédie tarte à la crème. Je suis fasciné par les tartes à la crème et fasciné par le burlesque, le cinéma burlesque. Pas tant par les mimiques, les machins, tout ça, mais par l'insolence extrême qu'il y a dans ces films où d'un seul coup, on donne un coup de poing, le mur s'écroule, le type tombe de 15 mètres, il est rattrapé par une poutre. Enfin, ce genre de comique qui relève à la fois d'une mécanique du comique et d'une absurdité complète, puisqu'ils éliminent quasiment toute causalité. C'est-à-dire que quand une chose se passe, il n'y a pas forcément de conséquence. Ou en tout cas, la conséquence n'a rien à voir avec la cause. Ou alors, elle est surdimensionnée.
Alors, vous parliez de tarte à la crème sur la photo du programme de la scène nationale de Sète. C'est carrément ça.
Oui. C'est venu parce que j'ai dit ça, c'est des comédies tarte à la crème. Et après, comme le spectacle n'est pas encore créé, donc il fallait quand même, il fallait malgré tout quand même un visuel, une image, pour que les gens puissent voir de ce dont il serait question, qu'ils aient envie de venir. Et on a commencé à regarder avec Olivier, en parlant de ça, toutes les images du cinéma burlesque, tout ça. Mais d'une part, au bout d'un moment, c'est lassant, parce qu'en fait, elles sont déjà saturées. Elles racontent d'où elles viennent, mais elles ne peuvent plus être utilisées vraiment autrement que comme citation. Ça, et puis alors, en plus, ça coûte très cher. Donc même si vous auriez une qui vous plaît, c'est inaccessible. Et puis en y réfléchissant, je me dis qu'après tout, c'est pas ça qui m'intéressait, c'est cet esprit-là. Et donc Olivier m'a dit, si tu veux, on peut avoir notre photographe, Marc Ginot. Alors je dis d'accord, alors je vais mettre en scène la photographie. Et donc j'ai commandé cette photo.
D'accord. Mais alors, on va le voir ça sur scène ou pas? Ou c'est juste l'appât?
Oui. Ben oui, on le verra.
Bon, elles doivent être contentes, les filles. Et les
gars, c'est quand même quand elles ont fait la photo, en fait, elles étaient pas au courant. Elles sont venues pour une séance photo, j'aurais rien dit. Je dis au photographe, tu leur dis rien du tout. Je leur ai dit comment il fallait venir habiller. Et je lui dis, tu prépares les tartes à la crème, tu mets l'écran au fond. Et je te demande une seule chose, le cadre doit être plein et tu appuies tout le temps et on verra bien ce qui se passe.
Oh la vache. Oh mais tu as risque d'être comédien quand même. Hein.
C'est pas facile.
Elles m'ont un peu voulu après. Bon, elles ont beaucoup rigolé. Elles m'ont un peu voulu sur le coup, je pense. Parce que mais pourquoi elle ne l'a pas dit? Et après, je leur ai dit, si je vous l'avais dit, vous n'aurez jamais pu jouer ça aussi bien.
Alors, ce texte de Jeanne Durif, c'est quand même aussi une sacrée aventure, parce que vous l'aviez joué sur un festival. Il est né d'un chantier et c'était en 97.
J'étais un bébé, quoi. C'est-à-dire que c'est fait presque comme ça, enfin, avec le collectif qu'on avait avec Jean-Marc Bourg, Jean Varela, Véronique de Belouet et Christian Pinault, qui s'appelait Abattoir. Ouais. On était à Sijan et on avait demandé, c'est la première fois où on était ensemble et associés. Moi, j'habitais pas encore ici, je venais juste un peu comme ça. J'habitais encore Paris. Et on a demandé à des auteurs contemporains qui nous intéressaient de nous passer ce qu'ils avaient dans les fonds de leur tiroir, qu'ils n'arrivaient ou pas à finir, ou pas à publier, ou que personne ne voulait jouer. Et c'était venu de ça, et personne ne voulait de ce texte, qui ne s'appelait pas du tout comme ça, qui s'appelait « Il faut que l'une ait raison pour que l'autre ait tort ». C'est-à-dire qu'avec un titre pareil, c'est peut-être pour ça aussi, je me suis dit. Et moi, quand j'ai lu ça, ça m'a beaucoup, beaucoup fait rire, mais vraiment énormément. Et je me suis dit, mais pourquoi personne n'a choisi ce texte? Moi, j'ai lu tous les autres textes, je trouvais c'était le meilleur. Je me suis dit, mais c'est bizarre que personne ne l'ait pris. Alors j'ai dit, mais moi, je veux ce texte. Par contre, je voudrais bien l'autorisation de travailler dessus, mais beaucoup. Et c'est né comme ça. Donc j'ai changé l'ordre des scènes, des tableaux, j'ai coupé la moitié du texte, j'ai changé le nom des personnages et finalement j'ai changé le titre de la pièce. Maintenant ça s'appelle Ni une ni deux. Et l'auteur ayant vu le chantier, hein, qui était juste un chantier.
Il a supporté
très vite
tout ça, l'auteur.
Il a été admirable. Non, mais je veux dire qu'il a été admirable, quoi. Donc il n'y a pas que les auteurs morts qui sont vivants, même les vivants des fois. Et alors du coup, il a tellement accepté qu'il a fini par me demander ma version de sa pièce pour pouvoir l'éditer.
Il a fini par baisser les bras en disant.
Il a baissé les bras tout de suite.
Tu n'aurais pas le dernier mot avec Jacques Allaire.
Non, je crois que ça. Effectivement, ça, je pense qu'il a vite compris que c'était ça ou rien. Et après, moi, c'est resté comme un. À la fois, vous savez, comme un souvenir de quelque chose de très, très heureux à faire, à inventer, et une déception profonde, parce que j'ai jamais pu le mener à terme. Parce qu'à cette époque-là, je ne savais pas moi-même que je créerais des spectacles. Je pensais que je ferais que jouer, enfin, que j'avais fait ça un peu par-dessus la jambe. Sérieusement, mais par-dessus la jambe, enfin, comme ça. Et après, alors que je comprenais très bien ce qu'on venait de faire et que je pourrais le pousser et finir par en faire un spectacle, les besoins, les nécessités de la compagnie, enfin, du groupe de l'époque n'étaient pas du tout celles-là, et donc c'est passé à la trappe et ça n'a jamais existé. Et là, d'un seul coup, quand Yvon Tranchant à 7 m'a dit, tu voudrais pas créer une comédie, hein, un petit objet qui serait vraiment léger, pas parce que c'est une comédie, mais aussi qu'on pourrait jouer dans toutes les villes, tous les villages, partout dans toute la France, je lui dis, ouais, ça me plairait. Et je lui dis, est-ce que je peux faire quelque chose à quoi j'ai travaillé que j'ai pas pu finir? Et il me dit, oui, tu penses à quoi? Et je lui dis, il y a ce truc là, j'ai toujours voulu le finir, j'ai jamais pu, est-ce que tu es d'accord que je le fasse? Elle me dit, mais bien sûr, et tu voudrais qui? Tu veux les mêmes acteurs? Je dis, non, je voudrais changer pour aussi. En même temps, j'aimerais bien, mais bon, ça va être peut-être plus compliqué finalement que ce soit avec eux, que ce soit des gens qui aussi seront nouveaux, en partie au moins, et qui, moi, me provoqueront aussi. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc les acteurs sont aujourd'hui Stéphanie Marc, qui jouait déjà dans la première version d'Eau d'origine, Le Chantier, Vanessa Lyotet et Cyril Amiot.
Oui, on va se régaler. Alors vous nous avez amené un peu de musique qui fait partie de la pièce, il est très court, et puis vous enchaînerez direct sur un peu de texte. C'est pas évident parce que c'est trois personnages.
Voilà. Je vais vous lire comme ça, je mettrai pas le ton, comme les gens ils disent, vous mettez le ton, je vais pas mettre le ton, mais je vais essayer de vous dire le texte, qu'on entende un peu comment c'est écrit.
Voilà,
il faut comprendre que le texte est volontairement amené à une absurdité complète. Il s'agit de deux comédiennes, on peut penser, qui viennent sur un plateau. Il devrait y avoir quelqu'un qui devrait les attendre et qui n'est pas là. Elles devraient faire quelque chose, mais elles ne savent pas quoi. Il y a des gens, elles en sont un peu paniquées. C'est normal, c'est du public. Hein, et le public est là pour avoir un spectacle. Donc le public exige un spectacle et elles n'ont rien à proposer. Donc elles cherchent à occuper le temps. Et il y a un type qui est là, comme ces types qu'on peut voir des fois fois dans la rue qui font la circulation, qui ont l'air complètement abandonnés ou perdus. C'est une espèce de type assez improbable qui est là, qui a l'air d'habiter le plateau lui-même et qui lui n'arrête pas d'intervenir et qui est complètement délirant, enfin un type délirant quoi. Voilà, qui a des araignées dans la tête. Et donc progressivement, ce sont les araignées qui gagnent le plateau. C'est-à-dire que c'est la folie naturelle de ce type qui gagne le plateau, qui font que non seulement il n'y a pas de spectacle, mais il n'y a qu'une catastrophe qui a lieu et qu'on assiste au développement de cette catastrophe et au vide progressif dans lequel sont ces deux personnages.
Très bien. Alors, un peu de musique sur le réseau FM+.
Ça va ? Encore une fois, on me pose cette question, encore une fois, ça risque d'aller très mal. Vous, ça n'a pas l'air d'aller très fort. Souvent, on s'attend au pire, et c'est pire. On se demande vraiment ce qui nous reste. Vous vous souvenez ? Si je me souviens. L'avenir, autrefois. L'avenir était, indubitablement, l'avenir était plus. Tout ce qu'il y a de plus. Et qui plus est, l'avenir était devant nous. Indubitablement. C'était autre chose, avant l'avenir devant soi, vous avouerez. On se retournait derrière soi, on savait que le passé était le passé. C'est tout à fait ça, le passé. Alors, le passé. Ne parlons pas de l'avenir, n'en parlons pas. Je dirais que c'est comme la mer, c'est autre chose. La mer, c'est la mer, ça se discute pas. Et l'avenir, c'est tout ce qui est plus indubitable. Et le présent, oh le présent, n'en parlons pas. Ça, le présent, on se demande même où il est déjà passé. À peine on y pense, maintenant, le présent, oh non. Non, le présent n'est plus ce qu'il a été. Et là, là où on en est maintenant, on se demande vraiment ce qui nous reste. On se le demande. Le seul conseil que je pourrais vous donner, à savoir lequel, ce serait, en attendant, bien sûr, ce serait, en attendant, d'arrêter. D'arrêter de respirer. Arrêter de respirer. Arrêter de respirer. En attendant, bien sûr. En attendant, c'est simple. Ah bon, c'est simple ? C'est simple. C'est vraiment très simple. Ce qu'il faut, c'est de la méthode. De la méthode avant toute chose. De la méthode. De la méthode. Je veux bien, moi. Je veux bien de la méthode. Mais pour commencer, là, pour commencer, pour tenter de s'y mettre. Mais dites-vous bien que c'est en attendant. En attendant, en attendant. Mais oui, bien sûr. Mais alors là, là, comment voulez-vous que je fasse pour commencer, pour tenter de m'y mettre, à arrêter de respirer ? De la méthode, de la méthode. Je veux bien, moi. Je dis oui. Si on me dit de la méthode, je refuse pas. Mais je voudrais savoir le ABC ou le BABA de la méthode. Mais il n'y a pas de quoi faire un discours. C'est simple. C'est vraiment très simple. Je comprends, mais pour commencer à s'y mettre, là, j'inspire, et après, qu'est-ce que je fais après ? Je reste en arrêt ? Non, mais vous n'en êtes pas loin, là. Non, ce que je veux, moi, c'est savoir si je suis ou pas. Parce que alors là, je peux pas rester comme ça, hein, d'accord, j'inspire, mais je peux pas rester comme ça en plan. Là, il faut me dire. Enfin, c'est presque ça, hein. Encore un léger petit effort, et vous y êtes presque. Mais si j'arrête, là, si j'arrête, si vous croyez pas que. Il n'y a vraiment pas d'autre solution. Vous me dites bien que c'est en attendant. Eh oui, en attendant, bien sûr. Ce qu'il y a d'ennuyeux, c'est que c'est jamais simple. Il reste toujours un tout petit restant de souffle là où on ne croyait pas, quand on n'y croyait pas. Un petit filet de souffle, un mince petit filet. Et là, pour le faire disparaître, celui-là, c'est pas simple. Alors, c'est vraiment pas simple. Oh, c'est pas simple. Maintenant, nous en sommes sûrs et certaines. Nous n'avons plus besoin de l'autre. Nous étions appuyés l'une sur l'autre. L'une contre l'autre, l'aveugle et le paralytique, c'est bien fini. Vous n'avez plus besoin de moi ? Pas trop, non. Ça va, merci. Vous n'avez plus besoin de moi ? Oh, il y a bien longtemps qu'on n'a plus besoin l'une de l'autre. Vous le savez bien. Qu'est-ce qu'on fait ? On se dit adieu ? Au revoir ? Qu'est-ce qu'on se dit ? Si on pouvait ne rien se dire, ce serait pas plus mal. Oui ? Ou alors un signe ? Oui, un signe. Juste un signe.
Ni une, ni deux. Donc, une mise en scène de Jacques Allaire, interprétée là, en direct live, sur le réseau RFM+. Non, mais
c'est Stéphanie Marc et Vanessa Lutet qui le joueront, et bien mieux que je ne saurais le faire.
Bon, en tout cas, déjà, oui, ça donne une bonne idée du texte. Est-ce que vous voulez bien nous dire quelques mots sur l'écriture de Durif, hein, qui est quand même très, 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 très rythmée, très, très incisive?
Oui, c'est une écriture qui a une chose assez singulière, c'est qu'elle a l'apparence, vous savez, l'apparence de beaucoup de textes contemporains où il n'y a pas beaucoup de phrases longues, beaucoup de points, beaucoup de suspens, beaucoup d'arrêts comme ça, comme s'il y avait une espèce de sens profond de la chose qui serait jamais dite. Et en fait, pas du tout, en fait. C'est une langue très très concrète, hyper concrète, dont la pensée est pleine, mais la phrase est arrêtée. Et ce qui fait que c'est un peu comme des gens handicapés. Alors voilà, il y a une jambe en moins, le bras en moins, mais ça ne cherche pas à faire croire que c'est pas un corps, que ce sera abstrait, ou ça n'est pas du tout abstrait. C'est très très concret, puis aussi très mélancolique. C'est-à-dire que ce sont comme des clowns mélancoliques. C'est une langue de clown. C'est vraiment le clown triste du riff. C'est vraiment celui qui ne fait pas exprès de faire tout ce qu'il fait, mais il n'arrête pas de lui arriver avec des histoires. Quoi. Tout est toujours compliqué. Il ne peut rien faire qui est simple. Quand il ouvre une porte, la poignée lui reste dans la main. C'est ce type de comédie là, quoi. Avec dans l'écriture autre chose, c'est que dans son écriture, radicalement, dire, c'est faire. C'est-à-dire, la parole est une action. C'est pas des gens qui font des choses et puis qui parlent. C'est dès qu'ils parlent, c'est une action. Et la parole produit et en cascade des événements qui relèvent quasiment, on va dire, de l'acrobatie. C'est des choses aussi qu'on peut retrouver dans le cabaret. Hein. Il a d'ailleurs écrit beaucoup de cabarets. Et en fait, il navigue. C'est une écriture qui navigue dans tout ça. À la fois, on est dans la comédie, l'absurdité, la loufoquerie la plus dingue, le cabaret avec ce sens de irrationnel de la chanson qui peut surgir à n'importe quel moment, et surtout de l'adresse publique. C'est-à-dire que le public est considéré comme un public, et on lui parle. C'est-à-dire on lui parle vraiment, hein, c'est-à-dire on parle aux gens qui ont vraiment pris leur place, qui sont vraiment assis. Donc la barrière du théâtre est complètement détruite, mais comme un acte volontaire. Pas comme une manière, c'est un acte volontaire de vraiment parler aux gens, parce que ça participe de ça. Et d'être ensemble et de devoir faire le spectacle, le show, comme on dit, quoi. Et à la fois, il y a tout ça. Et puis, il y a ce qui anime le fond de cette écriture. C'est une poésie mélancolique de l'être, dans laquelle est beaucoup, je pense, Eugène Durif. C'est-à-dire un amour des hommes et des femmes et de la simplicité des êtres. Et voilà, cette chose qui est de vers toutes les questions que les êtres humains peuvent se poser, de comment être ensemble, est-ce qu'ils arrivent à s'aimer, à passer, mais à quoi ils pourraient se destiner, enfin des choses comme ça, et qui chez lui sont amenés à la simplicité, au ridicule, et ça avec beaucoup d'affection, quoi.
Alors, est-ce qu'il y avait des didascalies dans son texte, ou bien que quand tout a été pratiquement, vous avez tout remis à votre sauce, les didascalies, vous n'en avez pas tenu compte non plus,
moi,
c'est
moi
ça.
Moi, j'ai un problème avec ça dans un texte, c'est que moi, un texte, une fois qu'il est écrit, si je le fais, il m'appartient, et si les gens veulent prendre le texte, ils n'ont qu'à le lire. Mais moi, je ne suis pas professeur, donc j'explique pas les textes et j'ai pas envie non plus de les lire, quoi. Mm-hmm. Les bibliothèques, c'est fait pour ça, les librairies, il faut acheter les livres, quoi.
Bon, donc tout est à la sauce Jacques Allaire.
Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas du tout.
Bien, alors c'est un spectacle, vous avez compris, qu'il faut absolument voir. Jacques, on ne peut pas se quitter comme ça sans que vous nous disiez quelques mots sur votre création prévue cet automne.
Oui. Là, je suis dans un mouvement d'accompagnement avec la scène nationale de 7. Alors c'est ça qu'il faut dire en fait, c'est qu'on a commencé à travailler ensemble déjà à partir de La Liberté Pourquoi Faire en 2010, qui est le premier spectacle que j'ai vraiment créé dans le mouvement dans lequel je suis inscrit aujourd'hui de création et de recherche artistique, radicale, dans lequel je m'engage. Et à la suite de ça, donc il y a eu Je suis encore en vie et Les Damnés de la Terre que j'ai fait à Paris et puis ailleurs. Et on voulait travailler ensemble et il y a la rencontre de cet étrange texte qui s'appelle Le Dernier Contingent, qui est un roman, qui là non plus n'a pas grand chose à voir avec le théâtre, qui a bénéficié de pas mal de prix et de renommée, qui est vraiment un grand roman de la littérature moderne, un roman français, d'un auteur qui s'appelle Alain-Julien Rue de Foucault, qui n'est pas très connu malgré le succès radical de ce roman publié il y a 2 ans. Et quand je suis tombé dessus, on en a tout de suite parlé et je lui dis mais ça faudrait pouvoir le faire. Et donc Yvon et la scène nationale de 7 m'ont dit mais comment tu vois ça? Et je dis c'est des jeunes gens, il faut absolument que je travaille avec des jeunes gens. des tout jeunes comédiens. Amateur, ce sera pas possible parce que je travaille trop, il y a trop de travail, c'est trop énorme. Mais je voudrais radicalement parler de ça, de comment ce roman est à la fois une espèce d'épopée fantastique de la jeunesse et aussi un portrait un peu cinglant de notre monde, comme ça, mais comme une course-poursuite et aussi une catastrophe. Il y a un côté comme ça, à la fois policier, de catastrophe et aussi comme un conte. On voit bien qu'on va être dévoré par le loup et on veut savoir quand, comment et comment ça va se passer, quoi. Et alors on a à la fois peur et on en a le désir, quoi. Et cette écriture porte ça très fort. Et donc on a décidé de travailler et monter le projet, de trouver des partenaires, des coproducteurs, des théâtres un peu partout en France qui nous accompagnent, et on a réussi à le faire. Et on le créera cet automne, d'abord en résidence à Castelnaudary, qui m'accompagne depuis 3 ans aussi. Et puis ensuite à Tarbes, Foix, Chelles, donc Castelnaudary, Sète, Saint-Étienne, Dijon, et j'en oublie quelques-uns. Mmh. Et on est en train de travailler à ça. Et c'est une production de la scène nationale de Sète aussi, qui est production déléguée et qui, pour ni une ni deux, là carrément, est producteur intégral du spectacle.
Très bien. Écoutez, Jacques, j'espère que vous viendrez parler de cette création au moment venu. Voilà, en attendant, eh bien, nous irons voir Ni une ni deux. Donc, interprété par Stéphanie Marc, Vanessa Lioté et Cyril Amiot. C'est donc à Sète et dans tous les villages du bassin de Thau, à compter du 16 jusqu'au 28. Donc, je vous conseille de réserver puisque le nombre des places est limité.
Oui, parce que les salles dans ces villages, dans ces communes, ne sont pas des grandes salles. Hein, ça tourne autour d'une centaine de places à chaque fois. Donc il y a Sète, mais il y a Mirval, il y a Marseillan, il y a Metz, Vic-la-Gardiole, Poussan, Balaruc-le-Vieux, Balaruc-les-Bains, Montbazin, Gigean et Frontignan-la-Pérade. Donc effectivement, mais en passant par la scène nationale, voilà, on peut avoir...
Voilà, un téléphone pour les réservations, 04 67 74 66 97. Parfait. Olivier, il vous reste une minute pour nous dire là les prochains spectacles à l'affiche à voir absolument au Théâtre Molière.
Alors j'ai juste vous proposer une petite sélection qui montre aussi la diversité des propositions de la scène nationale de Sète. Donc je vous conseillerais le mardi 17 mars Alexandre Tarot, qui doit être le plus grand ou un des plus grands pianistes français vivants, qui viendra nous jouer tout simplement les variations Goldberg, de Jean-Sébastien Bach. Je pense que dans un théâtre à l'italienne, ça devrait avoir une résonance assez jolie. Ensuite, je vous proposerai du théâtre forain, qui se passera à l'espace Chapiteau à Frontignan-la-Pérade. C'est le théâtre Dromesco. À l'époque, ils avaient créé la volière Dromesco, dont on se souvient. Mmh. Donc les fondateurs, Igor et Lily, reviennent. Et là, ça s'appelle le jour du grand jour. Et ça parle de tous les jours, de tous les événements qu'ils peuvent avoir. Alors la naissance, un baptême, le mariage, un enterrement. Voilà, tous ces événements-là. Et c'est donc le jour du grand jour. Et ils nous proposent ça sous leur baraque, chauffée. Bien sûr, qui sera donc à Frontignan-la-Pérade, et c'est du 18 au 22 mars. Et enfin, de la danse contemporaine, avec ce groupe, Grupo Corpo, qui sont des Brésiliens, c'est les frères Pederneras, Polo et Rodrigo, et qui vont donc proposer Semmim et Parabello, deux pièces, où là on retrouve ces danseurs et ces danseuses brésiliennes qui dansent, on dirait des lianes, enfin il y a un délié, il y a comme ça des corps qui ondulent, c'est absolument fabuleux, et donc ça sera le 24 et le 25 mars.
Voilà, excusez-moi, je voulais expliquer aux auditeurs, Olivier, que vous étiez en train de faire la liane, et que vous étiez magnifique, c'était très beau, dommage que nous n'ayons pas
oui, c'est la dernière radio où il n'y a pas de caméra, sur toutes les autres radios ils mettent des caméras.
Il va falloir absolument y remédier. Voilà. Alors, on répète le site internet pour toutes les informations.
Alors, c'est scène-nationale-7-bassin-de-taux.com. Et donc, le téléphone 04 67 74 66 97.
Parfait. Jacques Aller, Olivier Mabie, un grand merci.
Merci
à toi. À bientôt. Je vous laisse filer parce que je sais que la route est longue. Il faut retourner à Sète et vous êtes en pleine répétition. On se retrouve très vite pour la seconde partie d'émission avec Guillaume Trébuchon. Jeunesse, Scénorama, c'est sur le réseau FM+, tous les vendredis à 10h10, rediffusion le samedi à 12h10 et écoutable en podcast sur notre site fmplus.org. Donc, pour cette deuxième partie de Scénorama, eh bien, Guillaume Trébuchon est avec nous. Rebonjour Guillaume.
Bonjour.
Alors, dites-moi Guillaume, depuis le 23 février, c'est donc tout récent, l'Hérault Musique Danse a fermé ses portes après 31 ans d'existence, mais l'aventure continue.
C'est ça, en fait, les opérations sont dispatchées entre le Conseil Général de l'Hérault et le Domaine d'Eau. Donc voilà, c'est juste une banale question administrative quasiment.
Voilà, bon, on va dire toujours, voilà, ça va faire quelques économies. Aussi,
espérons-le.
Sans doute, espérons-le, oui, que tout ce travail ne soit pas fait pour rien, ces changements. Bon, enfin, en tout cas, vous gardez votre poste, votre fonction.
C'est ça, moi je vais faire des chargés de mission de musique actuelle, mais au Conseil Général de l'Hérault, je pourrais continuer à recevoir des groupes et continuer à faire 34 tours.
Voilà, entre et sur, là, voilà, surtout l'important c'était que cet événement continue d'exister.
C'est ça. Hein.
Donc, comme chaque année, 34 tours lance un appel à candidature.
C'est ça.
Et attention, enfin, c'est le délai, là, c'est le 16 mars, c'est ça. Il faut peut-être commencer à se bouger, les copains.
Oui, en général, les gens sont au courant, parce qu'on reçoit tout la dernière semaine, évidemment.
Et voilà.
Voilà, 34 tours, c'est un dispositif d'accompagnement de groupe en voie de professionnalisation. Voilà, on intervient dans une dynamique, voilà, les groupes qui veulent devenir professionnels, c'est-à-dire en faire leur métier. Et nous, on intervient pour, d'une part, travailler avec eux sur scène, sur une résidence, on travaille vraiment à côté artistique. À côté de ça, comme tout bon musicien aujourd'hui, il faut être chargé de com, un peu comptable, un peu stratège, un peu communicant. Et toutes ces compétences-là, on peut aussi les parfaire grâce à Illusion Macadam, qui propose un cursus vraiment spécialisé aux personnes des groupes accompagnés. Voilà, l'idée c'est vraiment d'accompagner. Voilà, c'est un truc d'accompagnement. C'est bien ce que ça veut bien dire, ce que ça veut dire. Voilà.
Alors on va écouter un premier extrait que vous avez amené. Donc il s'agit de Julien Fortier qui avait gagné
l'année dernière
34 tours, ouais. Voilà, et qui a vraiment là il décolle, hein, enfin c'est vraiment il commence à avoir un super beau parcours.
Ah là. Ben là l'année dernière on l'a chopé juste au moment où il venait de finir d'enregistrer son album. D'ailleurs l'album est pas tout à fait sorti et on va en écouter un extrait en exclusivité.
Mais,
chez toi un
oh,
peu,
quelle
classe,
chance. Merci Guillaume.
Et du coup, en fait, la résidence, ça a tout bonnement servi à dans une formule réduite, puisque aujourd'hui, pour travailler et pour vivre de sa musique, il vaut mieux être en formule réduite. On a réarrangé tout le set. En fait, on a créé son nouveau set en fait sur 34 tours. Ça sert aussi à ça, puisqu'on est vraiment sur artistique. Et donc, on a épuré, taillé, remis sur l'établi les chansons. Pour le live, voilà. Live qu'il a joué d'ailleurs pas plus tard que samedi dernier au Sonambule à Gignac. Donc voilà, les choses avancent. Voilà, 34 tours, c'est juste une étape en fait, mais ça peut être intéressant pour les groupes.
J'attends le déluge. Un soir de pleine lune, je t'aime. Quand tu expliques que ce n'est rien que l'influence du maître chien, je t'aime. Tu te dessapes en silence, ta bouche, tes seins, tes fesses. Vertu, promesse. Un soir agenouillé, au chevet de l'aube incertaine, entre les draps déjà usés, nos vies se mêlent et se querellent. Tu es un soir, passionnément, on laisse nos vies au placard. Tu es un soir, infiniment, notre premier encart. Serons-nous un soir sans lassitude, ce soir d'automne et de vin chaud, avec en arrière-plan un rhume et des phrases comme « Je t'aime, idiot ». un soir où l'on vacille sur les décombres excités d'une nouvelle occasion ratée. Et l'orgueil ne cesse de ternir les dernières occasions de se taire. C'est la débâcle, ma douce amère. Tu es un soir où tout déconne. Tu gifles, tu pleures, tu ordonnes. Tu fais le mot et l'aspirine. Je fais le mal. Un soir qui me ratatine, jolie petite conne. Nous sommes un soir d'intelligence, un soir de thé, de passion sage, où l'on disserte sextape, vengeance. On sait enfin tourner la page. J'étais un soir de pleine lune. Ce soir la lune est enchanteresse. Ta bouche, tes seins, tes fesses.
Eh bien, nous sommes sur le réseau FM+. Un arrêt un peu brutal, comment se fait-ce ?
C'est une fausse fin qui est une vraie fin. C'est un nouveau concept.
Ah bon ? Eh bien, écoutez, ça surprend. Ben, maintenant qu'on le sait. Donc, Guillaume Trébuchon, nous étions en pleine discussion et vous nous disiez justement hors micro que vraiment, ce Julien Fortier, là, il est en train de prendre un élan, voire un nouvel élan, voilà, avec bon, des instruments... un peu, on va dire, modifié. Enfin, vous pouvez nous expliquer à nos auditeurs tout ça.
D'accord.
Vous direz mieux que moi.
Alors, pour être simple, en fait, Julien, c'est quelqu'un qui est très, très emprunt de l'héritage chanson française à texte. Voilà, je crois que c'est un gros fan de Léo Ferré, d'Arthur Ashe. Voilà, des gens qui ont une écriture très littéraire. Au début, c'était vraiment inscrit dans un côté. Au début, il avait un groupe de rock français qui s'appelait Amélie. Et puis il a pris son envol sous son nom. Le premier EP était très un peu classique, voilà. En tout cas la formule live à 3 était assez classique avec piano et violon. Et là du coup il a un peu reconfiguré les choses. Donc maintenant c'est un vrai trio. Alors je dirais pas ce qui est un peu la forme ultime du groupe de rock, puisque c'est guitare, clavier, batterie. Et les basses sont jouées au synthé. Voilà, donc aujourd'hui on est à la frontière entre la chanson et une version un peu moderne d'un rock un peu électronique, quoi.
Oui.
Voilà, ça a une forme un peu plus moderne, sans renier bien sûr une écriture, voilà, qui a un vrai aspect littéraire.
Oui, oui, tout à fait, oui, oui. Et une voix magnifique. Alors tout ça grâce à 34 tours.
Alors tout
quand
ça
même.
Grâce à lui, parce que lui, c'est lui qui avait la matière première. Voilà. Oui. Après nous, c'est vrai qu'on a 6 jours de résidence sur une scène à Victoire 2. On fait des vraies journées de boulot de 9h à 18h avec un regard extérieur. 34 tours, c'est aussi ça, c'est-à-dire que on fait un diagnostic. C'est un truc assez basique, hein. Mais bon, nous, on est très basique. Moi, j'ai fait des études scientifiques, donc faut que ça soit carré, quoi. Donc on fait un diagnostic et en fonction du diagnostic et de ce que veut le groupe, on met en place des axes de travail. Et on travaille sur scène avec quelqu'un qui est là pour ça. C'est-à-dire qu'on va pas imposer des choix, bien loin de notre, bien loin de tout ça. On est vraiment là pour apporter une plus-value au groupe, et on est là et on le décide ensemble. Voilà. Si le groupe il a pas du tout envie de travailler sur quelque chose qu'on lui a préconisé, ben on le fait pas. Sinon ça sert à rien. Mmh. Voilà. Et donc là l'idée c'était vraiment au moment où Julien a fini d'enregistrer son album de monter, voilà, monter son nouveau set. Voilà, parce que l'album il était enregistré avec plein de musiciens additionnels, avec des vraies batteries, avec un vrai violon, enfin voilà. Et pour tourner aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, il faut plutôt des formes assez réduites pour des formes économiques notamment. Et voilà. Ouais. Contraintes économiques obligent. Et du coup, on a remonté, voilà, lui, il a remonté, il avait des idées, qu'on a formalisé vraiment sur scène avec un intervenant extérieur. Parce qu'aujourd'hui, c'est moins le cas aujourd'hui, mais quand on a commencé 34 tours, souvent aussi avec des groupes qui sont un peu à la lisière de la professionnalisation, il y a des questions de moyens qui se jouent aussi, l'apport du regard extérieur, c'est pas quelque chose qui est très encore usité. Voilà. Là, c'est vraiment bien aussi d'avoir, comme des fois on va chez le psy pour avoir un regard totalement brut et neuf, ben là c'est pareil, on a quelqu'un qui est là, qui connaît pas forcément les morceaux, et qui juge sur pièce et qui permet voilà d'élaborer un peu des choses, de faire des choix. C'est vrai que des fois, quand on est dans les logiques du groupe, c'est difficile de faire des choix. Avec un apport extérieur, on fait des choix, on essaye des trucs, il y a des trucs qui marchent pas, il y a des trucs qui fonctionnent. Voilà, 34 tours, c'est aussi ça, c'est aussi un petit, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un laboratoire, mais c'est vraiment un espace de travail où on a un peu le temps, parce que quand même 6 jours de plateau en musique, c'est pas mal. Voilà, et donc là, on a travaillé sur 45 minutes de set de A à Z, quoi. C'est-à-dire qu'il est arrivé avec ses chansons, avec des idées d'instrumentation, et puis à partir du squelette, on a construit, avec une forme réduite, mais on a construit un vrai set.
D'accord. Alors moi, je vois nos techniciens, je ne citerai pas son nom, qui est musicien, chanteur. Il a un groupe complètement déjanté, et j'entends qu'il vous écoute attentivement, et je perçois dans son regard qu'il meurt d'envie de s'inscrire. Donc, comment être candidat aux 34 tours ?
Alors. Bah déjà, il faut avoir un projet musical un peu affirmé. Voilà, comme on est sur des groupes, on essaie d'aller vers une filière métier.
Voilà. D'accord. Mon cher technicien, est-ce que votre groupe est affirmé ? Est-ce qu'il va vers la professionnalisation ? Peut-on dire oui ?
On est pro déjà. Hein.
Vous êtes pro déjà. Ah bon, alors.
Facilite pas le boulot d'Annick. Non, voilà, l'idée c'est vraiment de tendre vers ça. On sélectionne que deux groupes. Il y a déjà pas mal de monde qui pose son dossier. Donc c'est
il y a environ combien de personnes
En général, on a une bonne trentaine. Voilà, on a une bonne trentaine.
Et vous en sélectionnez combien ?
Deux. Malheureusement, on n'a que deux places. Voilà, donc c'est vrai que c'est un peu drastique. Je tiens à dire que ce n'est pas moi tout seul qui fait la sélection. Il y a un jury qui est là, avec des gens qui bossent dans le milieu de la musique. Un jury qui change plus ou moins chaque année, histoire de pas créer de mauvaises habitudes. Voilà, donc du coup, on essaie d'être assez objectif. Et comme je dis souvent au groupe, quand ils viennent me voir, ce qui nous intéresse, c'est le moment. C'est-à-dire que un groupe qui sera un peu neuf dans sa proposition, qui aura pas maturé son truc, qui aura pas peut-être aussi fait un ou deux concerts ratés, où ils doivent se remettre en question, voilà, ils touchent du doigt qu'il y a des choses à changer, qu'on peut travailler. Ça sera peut-être un peu trop tôt. Et puis il y a des groupes, qui ont déjà tout en main et pour qui des fois, voilà, les choses sont déjà très en place. Et c'est vrai que bon, est-ce que c'est vraiment la peine ? Voilà, nous, cette question du moment est très importante. Évidemment, il faut quand même qu'il y ait un propos artistique. Ça, voilà, ça c'est inévitable. Voilà, on fait pas de la programmation, mais on est quand même sur une sélection de projets artistiques. Voilà, il faut que ça soit comment dire, c'est un peu on va dire intéressant, c'est un peu c'est réducteur comme le terme, mais c'est un peu ça, quoi.
Alors on va écouter un autre groupe qui a été sélectionné dans le cadre de 34 tours. Il s'agit de,
alors j'ai apporté Yaros et Scotché Sofa.
Yaros
non, c'est Yaros, ouais.
Et alors eux, c'était en quelle année?
Alors c'est singulier parce que en fait 34 tours, c'était en 2010, pour répondre à ta question. Déjà, on va commencer dans le bon ordre. Et en fait, Yaros, au début, c'était un duo avec Nicolas qui jouait du violoncelle et qui faisait beaucoup de boucles, et Germain qui est un batteur extraordinaire, voilà, ils étaient à deux pour faire ce truc là et il y avait un empilement de boucles, c'était un peu compliqué. Du coup, là vraiment, on l'a fait vraiment du ménage. Voilà, la résidence a servi à ça, ça a servi à élaguer vraiment, et cet élagage a permis, justement, parce que en discutant avec Nicolas à l'époque, il me dit, moi j'ai bien envie d'un troisième musicien parce que je sens que la Formule 2, ça commence un peu à être pesant et puis c'est compliqué. Et du coup, cet élagage a permis plus tard l'intégration de Colin, qui est guitariste et qui joue des claviers aussi. Voilà, et donc c'est vrai que voilà, on est intervenu à ce moment-là. Depuis, Aros, c'est un groupe qui a fait son chemin. On va passer un extrait du premier album qui est très bien. Le morceau s'appellera Night and Day et ils sont en train d'enregistrer le second album. Yaros m'a envoyé les, ces nouveaux morceaux, enfin ces maquettes quoi. Ça promet vraiment quelque chose de bien. Et voilà, c'est un groupe qui est vraiment devenu professionnel, qui tourne beaucoup, qui travaille beaucoup, parce que on ne devient pas professionnel en restant dans son canapé.
Oui.
À moins d'avoir un bon tourneur et de s'appeler Stromae. Voilà. L'idée c'est que vraiment aussi, comme je vous disais, 34 tours, c'est juste une petite pointe pour alimenter le travail.
On écoute.
Je suis apeuré, moi je suis blessé par les années sans exister. Night and day. Un horizon sans oraison, le ventre plein de soumission. Night and day. Un avenir sans oppression, la bouche pleine de passion. Night and day.
Oui, c'est la musique à fond sur Scénorama dans votre émission, en compagnie de Guillaume Trébuchon. Voilà, j'en bafouille. Guillaume, donc, moi j'en reste sur cette idée-là, comment s'inscrire notre technicien, la trépigne d'impatience, il veut plus de détails.
C'est vrai qu'il y a là-bas vos lèvres, je vais donner l'info. En fait, il s'agit tout simplement de télécharger le dossier sur la page d'accueil du site de Hero Music Dance, qui reste encore ouvert pour quelques mois. Voilà, en page d'accueil, il y a un dossier à télécharger, un truc tout bête, heromusicdance.fr. Vous téléchargez le dossier, et si vous correspondez aux critères, vous me l'envoyez. Bon, et donc les critères.
Voilà,
alors,
quels sont les critères?
C'est quoi les critères?
Bah oui. Et attention, rappelons quand même que c'est jusqu'au 16 mars, hein, le dépôt des candidatures. Bon, donc,
si ça arrive au 17, on va tuer personne non plus. Hein.
Ah bon.
Ceci dit, les critères. Donc évidemment, comme c'est un truc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut être dans une dynamique de professionnalisation. Donc ça veut dire qu'il faut être un peu actif, qu'il faut, voilà, il faut montrer que ça joue, qu'il y a de la date.
Donc, il faut des dates.
Et oui, il faut des dates de concert. Parce qu'un groupe qui est dans une voie de professionnalisation, s'il reste chez lui, c'est que c'est pas super bien. Donc on demande au moins une vingtaine de concerts sur les deux années écoulées. On demande d'être passé en studio pour enregistrer 4 ou 5 titres. On demande évidemment d'être localisé dans l'Hérault et pas juste d'avoir une boîte postale chez Mamie Jeannette pour faire croire qu'on est de l'Hérault.
Vous connaissez toutes les ficelles, vous, on vous la fait pas comme ça. Hein.
On me l'a fait, c'est pour ça que je dis ça. J'ai déjà subi le truc une fois et j'ai reçu les foudres de nombreux groupes qui m'ont dit, attends, c'est quoi ce truc? Bref.
Donc maintenant, ils sont même pas de chez nous.
C'est ça. C'était un peu entre deux et voilà. Donc on évite entre deux maintenant. Voilà, c'est à peu près tout. Hein. C'est pas plus compliqué que
bon,
ça en fait.
Et c'est gratuit?
Et pourquoi ça serait payant? C'est sur un dispositif départemental.
Vous savez, moi je me méfie. Hein.
Non, c'est totalement gratuit. Le seul truc qu'on demande au groupe, évidemment, c'est évident de rentrer dans un peu le jeu du dispositif. C'est-à-dire, effectivement, on fait un diagnostic scénique, c'est une étape un peu compliquée, il faut jouer le jeu. Avec Elijah Macadam, on fait un rendez-vous très très normé sur l'organisation dans le groupe pour voir qui fait quoi, déterminer les compétences et déterminer les compétences qu'il faut améliorer. Évidemment, on demande au groupe d'arriver à l'heure, puisqu'on embauche des gens qui sont là pour travailler avec eux. Donc voilà. Et puis après, on leur demande d'être à l'heure aux balances pour leur concert. Donc c'est pas grand chose. On essaie vraiment de travailler avec eux. Voilà.
Bon. Et vraiment tous les styles sont admis. C'est classé par genre. Comment vous faites votre sélection et...
Écoute, tous les styles sont admis. Voilà, c'est enfin très clairement depuis le début, on a eu de la chanson, on a eu du reggae, on a eu vraiment des trucs électroniques très très durs parce qu'on a eu Mosh Pit à l'époque, qui était quand même un truc qui envoyait sévère. On a eu Hypnose qui fait une belle carrière sur la scène metal. On a eu cette année Perfect & Crew qui a un groupe de hip hop grime très anglais, basse musique à fond. Non, on a pas vraiment de voilà, il y a pas de genre quoi. Il y a pas de genre en particulier. On est là pour travailler avec les groupes. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment participer au développement. Voilà. Nous, notre intérêt, c'est de participer au développement d'un projet qui va être professionnel et qui est singulier.
Oui. Bah écoutez, c'est une super initiative. Donc on rappelle le site Hero.
HeroMusicDance.fr. Alors Hero comme le département évidemment.
Oui.
HeroMusicDance en français au singulier tout attaché. .fr.
Voilà. Et alors en 2013, c'est Earth of Wars, si je me prononce bien.
C'est ça.
Avec Céline qui fait plutôt de la folk, on va dire, hein, qui avait été sélectionnée.
Ouais, ouais, ouais.
Voilà, cette jeune fille fait bien sa route aussi là. Mais
elle bosse quoi. Voilà, hein, c'est voilà. Ça comme malheureusement, j'ai un peu l'impression que ce côté un peu fantasmé du musicien qui glande un peu enfin voilà, à moins d'avoir du génie et ça suffit pas. Voilà, il faut un peu s'arracher, il faut travailler, il faut répéter, il faut monter des projets, il faut faire sa promo, il faut faire des conseils, il faut avoir des propositions un peu intéressantes, un peu innovantes, il faut un peu taper à côté, il faut voilà.
Il faut se bouger.
Il faut se bouger quoi.
Oui, et donc cette même année en 2013, Tana and the Pocket Philharmonic aussi avait été sélectionnée. Je pense aussi à, si je ne trompe, cette Anne Match.
Ah, c'était match, non, ils sont pas passés chez nous. C'était match, ils sont chez Palomich en face.
Ah voilà.
Voilà.
Bon et donc alors par contre Scotch and Sofa oui ils ont été sélectionnés chez vous.
Scotch and Sofa on les a un peu pris là-dessus sur voilà pour remettre un peu en route un set en fait on a travaillé avec eux sur un peu de scéno, un peu d'arrangement.
D'accord. Et donc on va terminer l'émission avec un de leurs morceaux.
Ben oui, parce qu'ils sont en train de peaufiner leur second album qui devrait voir le jour courant 2015, espérons-le. Voilà. Yaros aussi est en train de faire des morceaux. J'ai dit donc voilà, tout ce petit monde avance. Voilà, et je suis assez fier qu'on ait pu faire un bout de route avec eux.
Bien. Guillaume, un grand, grand merci.
Merci à toi.
Et merci pour ce beau travail fait avec les artistes, c'est essentiel.
Ben, hein? Espérons-le.
Ouais. Merci à Manu qui était à la technique. Merci. Et merci aux auditeurs d'FM+, d'être fidèles à Scénorama, que vous pouvez écouter et réécouter sur le réseau FM+.
C'est pas ça tous les jours. Ça se colle, ça se console, ça se console et ça se caque. Ça riposte, ça réplique et ça rigole. Ça s'étonne, ça s'étripe et ça se cajole. Ça se pack, c'est ça, ça se pique et ça se plaque. Ça se colle et ça, ça se console et ça se claque. Ça s'embrasse et ça, ça résiste et ça se blesse. Ça se lasse, ça s'enlise, ça s'enlise et ça se laisse. C'est pas ça tous les jours. De tomber en amour. C'est pas ça tous les jours. Ça se révolte et ça se déteste. Ça se cherche, ça se flique et ça se teste.